Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine d'août 2025. Ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 Sherbrooke et de chez 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Déjà le mois d'août. L'automne est à nos portes. Petite blague, mais le temps est un peu plus frais que les derniers jours, ce qui fera pas de tort, parce qu'à un moment donné, il faut donner congé aux airs climatisés aussi. Donc, pour ça, ça va bien de ce côté-là. Menu de l'émission, deux comédies qui prennent l'affiche cette fin de semaine. Et dont les bandes-annonces en ont trop dévoilé. Et ça, c'est le... un des grands problèmes, parfois, de ces bandes-annonces-là, lorsqu'elles dévoilent plus qu'elles devraient n'en donner, ou en tout cas, on y va franc. Ça fait en sorte que les bouts qui sont supposés être très, très drôles dans la salle tombent à plat particulièrement. Parce que, ben, c'est ça. On a vu la bande-annonce, on a vu les extraits d'avant. Et c'est ça. Ça gâche un petit peu le fun, même s'il y a des trucs encore un peu secrets. Souvent, on a gardé les meilleures blagues pour la bande-annonce. Donc, c'est un... c'est un petit débat qui aura toujours lieu et qu'on a eu ici d'ailleurs du côté de Sherbrooke cette semaine dans la quotidienne d'été sur pour ou contre visionner une bande-annonce avant d'aller voir le film ou est-ce que les bandes-annonces donnent vraiment envie d'aller voir le film? Parfois oui, souvent non. C'est sûr que ça peut être bon de partir avec une petite base, mais c'est ça, quand la bande-annonce en dévoile trop, ça devient plate, rendu... à l'événement, ou rendu au visionnement, je devrais plutôt dire. Règle que je m'imposais, surtout dans les derniers Avengers, quand on arrivait vers les derniers films, quand il y avait une bande-annonce, je faisais exprès d'arriver un petit peu à la dernière minute, dans la salle, tout au moins. Donc la file au popcorn soit un peu plus longue, c'était pas si grave. Il y a toujours à peu près 5 minutes, surtout des nouveautés. On a un jeu de 5 minutes avec l'heure de début de la projection, sachez-le. À moins que ça aille augmenter pour les cinémas de Québec, mais ça me surprendrait, mais c'est à peu près 5 minutes habituellement. Quoique c'est pas vrai, les méchants hier, ça n'a pas été tout à fait un petit peu moins de 5 minutes. Il y avait une bande-annonce en moins et j'en suis même resté surpris. Donc, Les Méchants et Naked Gun, l'agent fait la face, nouvelle version, comme Liam Neeson le dit lui-même dans le film. C'est ça, deux comédies, deux registres différents. Bon, il y en a un, évidemment, qui est dessin animé, l'autre est en vrai. À l'image des films originaux des années 80-90, dans le cas de l'agent fait la face... Il y avait des bons gags dans la bande-annonce qui ont été brûlés, malheureusement. Sinon, pour débuter l'émission cette semaine, suivi de dossier, parce que je suis pas mal certain d'en avoir parlé dans les dernières semaines, mais... Du côté de l'Alberta, il y a partiel, tout comme au Québec. Québec, ce sera déjà la semaine prochaine. Pas lundi là, l'autre. On saura qui l'emportera entre Alex Boissonneau de Feu Radio-Canada et Éric Duhaime de peut-être Feu, le Parti conservateur, s'il réussit à perdre encore une fois. Ce sera à surveiller dès le 11 août. Je vais vérifier en le disant, oui, le 11 août. Et la semaine suivante, le 18, ce sera bien sûr en Alberta que ça se passera. Puisque suite à la défaite de Pierre Poilievre, il a décidé de tasser l'un de ses candidats locaux pour tenter de reprendre sa place au de reprendre une place au Parlement, soit celle du député de Battle River Crowfoot, où le comité du bulletin le plus long a décidé de se représenter. Le comité du bulletin le plus long est un organisme qui se présente dans les partiels et ou aux élections générales pour dénoncer le système politique canadien que, quand même qu'il y aurait, dans ce cas-ci, 214 candidats. Il n'y a pas nécessairement une représentation équilibrée qui se fait après ça au pourcentage de votes reçus versus celui qui est majoritaire dans son comté remporte l'entièreté de la circonscription, ce qui donne des anomalies dans tout système politique canadien, comme on a pu le voir nous autres aussi au Québec à la dernière élection, où le Parti libéral finissait quatrième, mais était deuxième au nombre de députés. Donc, c'est ça, des petites anomalies de ce genre-là. Revenons en Alberta. Donc, Battle River Crowfoot. J'aurais pas dit Crawford, mais c'est Crowfoot. C'est pas comme Cindy. Voilà, une dizaine de candidats locaux qui se présentent pour vrai, plus Pierre Poilievre, et les 200 autres qui se présentent, les 204 autres qui se présentent pour le comité du bulletin le plus long. Élections Canada a dû prendre la décision de ne pas imprimer ce bulletin de vote de 214 personnes. Parce que, c'est ça. Ça aurait donné le bulletin de vote le plus long de l'histoire du pays. Record précédemment détenu dans la circonscription de Carleton pour Pierre Poilievre, où ils étaient seulement 94 à se présenter, sauf erreur, 94 me semble, et avant ça, c'était dans la partielle qui était à la salle Verdun au fédéral Montréal, avant le déclenchement des élections générales, où il était comme 50, là, c'était là en proportion impressionnante. Et c'est ça, donc le précédent bulletin de vote à Carleton faisait un pied de long. Celui-ci, avec 204 ou 214 noms, on pouvait doubler la superficie, peut-être faire une troisième colonne pour essayer d'économiser. Mais dans tous les cas, ça donnait un format de papier qui probablement aurait été exigé pour cette campagne électorale-là, et de s'imaginer de déplier un carton de 6 pieds par 6 pieds pour être capable de mettre tous les noms sur le bulletin de vote, ça devenait un petit peu trop compliqué, surtout pour cocher une toute petite case à travers ces 214 noms-là. Donc, à la place, Élections Canada optera pour la formule d'un vote par anticipation par correspondance. Donc, dans ces formats-là, comme on a eu, par exemple, dans les universités pour aller voter dans sa propre circonscription tout en étant à l'extérieur, on doit inscrire le nom de la personne pour qui on vote et ce sera acheminé dans la bonne circonscription. Donc, important, c'est ne pas marquer le nom de la la formation politique, parce que justement, il y a beaucoup d'indépendants, pas juste à Battle Crowfoot, mais en général, on demande à ce qu'on marque vraiment le nom de la personne en faisant le moins de fautes possible et que ça soit reconnaissable pour être capable d'enregistrer le vote à la bonne personne. Ce qui fait en sorte que, c'est ça, il n'y aura pas de bulletin. Le bulletin le plus long de l'histoire restera celui de Carlton, précédent de circonscription de Pierre Poilievre qu'il détenait depuis 20 ans, pour celle de l'Alberta où il faudra simplement écrire le nom de la personne pour qui on va. Donc, Pierre Poilievre ne pourra pas blâmer le fait que le bulletin était trop gros pour que les gens aient voté comme faux, parce que bien sûr, ce n'était pas de sa faute, ce n'était pas parce qu'il a pris pour acquis sa circonscription, mais bien à cause de toutes les autres circonstances qui faisaient en sorte qu'il avait perdu sa circonscription, notamment parce qu'il avait dit qu'il voulait mettre au chômage plusieurs fonctionnaires et que sa circonscription contenait beaucoup de fonctionnaires fédéraux. Parce qu'il est en banlieue d'Ottawa, donc il faut bien que les fonctionnaires d'Ottawa résident quelque part. Ça a donné que c'est dans la circonscription de Pierre Poilievre, et il disait que c'était à cause des syndicats qui avaient encouragé les fonctionnaires à voter contre lui. Donc, c'est ça, c'était encore une défaite à se trouver pour ne pas dire que c'était sa propre faute. Et ça fait également en sorte qu'il y avait débat cette semaine du côté de l'Alberta dans la petite ville de Camrose où, étonnamment, Pierre Poilievre s'est présenté pour participer à ce débat-là. Il y avait surtout les candidats locaux donc de formation qui existent déjà qui étaient à ce débat-là. On aurait pu croire que Pierre Poilievre ne serait pas là, mais non, il y était lui aussi. Et l'une des candidates indépendantes a souligné le fait que dans la salle où les gens étaient réunis, au théâtre du campus de Camrose de l'Université de l'Alberta, il y avait 500 personnes. Elle a demandé tout simplement « Levez la main ceux qui ont le droit de vote dans la circonscription, donc qui habitent la circonscription et qui pourront voter. » Et constat, il n'y avait pas beaucoup de mains qui se sont levées. Est-ce qu'on a voulu garnir la salle de d'autres choses? Sait-on jamais? Mais même sur la scène, il y avait un candidat vedette qui ne pourra pas voter pour sa propre élection. C'est Pierre Poilievre. Il n'y a pas d'adresse à Battlefoot. C'est ça. C'est Battlefoot. Je suis en train de tous les mélanger. Battle River Crowfoot. C'est un beau nickname, par exemple. C'est comme le premier puis le dernier mot. C'est ça. Fait que même lui, techniquement, ne pourrait pas voter pour sa propre élection. Dans la circonscription, tu sais, il assure qu'il va être une courroie malgré tout pour les gens de la place, même si, en tant que chef de l'opposition, il y a d'autres choses à faire. Fait que ça, c'était quand même très honnête de sa part qu'il allait se sacrer bien comme faux de Battle River Crowfoot. Et c'est ce qui a fait dire à la candidate indépendante, évidemment, j'essaie de retrouver son nom, puis ça va être plus difficile que prévu, elle-même... Bonnie Critchley, qui, elle, est une résidente de la circonscription, qui a demandé ce vote-là à main levée, qui a le droit de voter pour vrai dans deux semaines, et de répondre tout simplement à Pierre Poilievre, c'est bien cute, mais il y avait une raison pourquoi on avait voté pour le candidat local, le candidat sortant qui a donné son... qui a démissionné pour donner une possibilité à Pierre Poilievre de retourner à l'Assemblée nationale, contrairement à lui, parce qu'on était dans la circonscription où les conservateurs avaient la plus grande majorité d'avance et au pourcentage, et au nombre de votes, évidemment, au pourcentage de votes sur le plus proche rival. Je pense que c'était même comme 82%, puis l'autre était à peine 10. Fait que, tu sais, c'était la circonscription conservatrice la plus sûre. Mais en même temps... est-ce que les gens de Battle River Crawford vont vouloir tant que ça d'avoir de Pierre Poilievre? Parce que, et c'est ça qu'elle a rappelé, cette candidate indépendante-là, il y aura un vote de confiance envers Pierre Poilievre en janvier. Donc, l'empressement de démissionner du candidat conservateur local, c'était surtout parce qu'il fallait que le chef revienne au Parlement à l'automne, parce que là, il était dans l'entrée puis il chignait un petit peu de son côté. Sauf que quand même, dans un autre 5 mois, parce qu'on est rendu en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois, il y aura ce vote de confiance-là envers Pierre Poilievre. Et qu'est-ce qui arrive si Pierre Poilievre perd ce vote de confiance-là. Parce qu'habituellement, les instances conservatrices, si tu n'as pas gagné les élections, tu te fais mettre dehors. Parlez-en à Andrew Scheer, parlez-en à Erin O'Toole. Si tu perds tes élections, en plus de ne pas être élu une première fois, et qu'est-ce qu'il a dit Idriss, il se faisait défaire également dans Battle River Crawford, ça serait particulièrement gênant. Et là, c'est sûr qu'il perdrait son vote de confiance s'il perd sa partielle dans deux semaines. Mais reste quand même que cette possibilité-là qu'en janvier, Pierre Poilievre se fasse défaire par son propre caucus, et s'il perd, est-ce qu'il reste en vie politique active? Est-ce qu'il reste le député de Battle River Crawford jusqu'en 2027? Possibilité de prochaine élection parce que le gouvernement est minoritaire et ça va être difficile pour Mark Carney de rester au pouvoir parce que les conservateurs vont vouloir retourner en élection avec leur nouveau chef. Ben, ce ne sera pas avec Pierre Poilievre, on va se le dire. Mais oui, ça va être encore Pierre Poilievre, puis c'est ça. Ça ne sera pas... Ce ne sera pas si difficile que ça pour Mark Carney de le remporter. Il manque seulement deux circonscriptions. Fait que voilà. C'est dommage pour les gens de l'Alberta que c'est ça. Elle a dit... moi, en tant que tel, Madame... C'est Bonnie. Comment qu'elle s'appelait déjà? Tu sais, elle-même est comme... Tu sais, je voulais... Bonnie Critchley. Tu sais, je voulais pas nécessairement me présenter. Mais en même temps, tant qu'à avoir un gars qu'il va falloir qu'on recommence des élections partielles dans 6 mois, aussi bien que vous votiez pour moi, puis moi, je vais vous représenter pour vrai à l'Assemblée nationale si vous avez des dossiers que vous voulez faire passer comparativement au gars que lui, c'est juste en attendant de pouvoir retourner dans la chambre parce qu'il chigne du pied en étant pogné à l'extérieur. Fait que, d'une certaine manière, elle a raison, mais en même temps, c'est ça. À quel point les gens vont quand même vouloir redonner confiance à Pierre Poilievre, surtout la possibilité qu'il n'ait plus de job dans 6 mois en tant que chef et qu'il devienne réellement seulement un député d'arrière-ban de l'Alberta, d'une circonscription qu'il ne connaît pas beaucoup et qu'il n'habite pas. Parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas à quel point il y a eu le luxe de se louer un 3,5 comme Pierre Poilievre a fait après à Plessisville pour faire à croire qu'il connaît bien gros Arthabasca. Mais tu sais, en étant de Laval, mais tu sais, c'est juste plate, c'est ça. C'est que les gens de l'Alberta, oui, sont normalement plus favorables à Pierre Poilievre, mais ça serait très surprenant qu'il reparte avec 82% des intentions de vote. Ou en tout cas, de repartir avec une majorité absolue de 20 000 voix d'avance sur l'autre candidat, parce que ben, c'est ça, on a pris la circonscription pour acquise. À suivre, donc, dans 3 semaines pour la partielle du côté de l'Alberta. Qu'on te pose au retour la suite du deuxième service ici même sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ.
Ça coupe bien sec.
Juste Robert, Charlotte Brousseau qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Un de qui le gouvernement a probablement hâte qu'il prenne des vacances, c'est Thomas Gerbet de Radio-Canada, parce que ben, s'il n'était pas là, mon Dieu, qu'on manquerait beaucoup de scoops niveau politique et de dépenses d'argent un peu compliquées, ben, notamment Hydro-Québec qui engage des experts 8 fois le pays, qui reste pas au Canada, d'autres gens qui profitent de la situation, qui travaillent à distance et qui ont accès au système informatique québécois, mais bon, ce sera pour une autre fois. Puisque cette semaine, on révélait que les dépenses à gros prix, ça reste quand même pas surprenant venant du gouvernement, peu importe lequel, ils ont tous fait ça. Karl Malenfant, celui qui est name drop, celui qui est mentionné à peu près à chaque fois que quelqu'un vient parler de sa clique, a refusé, et c'est à son honneur, j'ai envie de dire, d'être interrogé à 8 clos par la commission Galant pour faire la lumière sur le scandale du financement de sa clique. C'est pas encore le scandale du financement, mais c'est le... C'est tout comme, donc, le grand responsable de la transition numérique de la Société d'assurance automobile du Québec, Karl Malenfant, est fâché et s'insurge contre la volonté de la commission de le réinterroger, mais à 8 clos, la semaine prochaine, pour une raison qui échappe à beaucoup de monde. Parce que voilà, dans les derniers épisodes, Karl Malenfant était à peu près celui qui a tiré les cordes d'à peu près tout ce qui a mal été du côté de sa clique, d'avoir donné des contrats à des anciens chums avec qui il a travaillé pour essayer de numériser justement Hydro-Québec et quand ça n'avait pas fonctionné non plus. Fait que là, ben, on l'avait réembauché pour sa clique et pour sa clique, il a fait la même affaire. Il a payé du monde trop cher, il a donné des contrats à des amis ou il a dit à des amis d'aller sur tel conseil d'administration, d'aller dans telle compagnie pour que quand on va donner le contrat, tu vas pouvoir empocher de l'argent toi aussi. Bref, il y a des choses pas claires qui se sont passées là-dedans. Et pour une raison particulière, la commission Galland voulait avoir Malenfant dans ses bureaux, mais à huis clos. Donc, que ce témoignage-là se fasse dans un secret quelconque, ou parce qu'on voulait lui poser des questions pour après ça l'interroger devant le public, ce bout-là n'est pas clair. Mais d'interviewer le gars probablement le plus, pas radioactif, mais le plus problématique de tout ce problème-là, parce que peut-être il y a des noms à donner que certaines personnes ne seraient pas contentes que leur nom sorte, c'est des suppositions. Mais ça regarde mal, mettons qu'on veuille recevoir cette personne-là particulièrement en secret. Et, comme je le disais, à son honneur, il a dit que, ben non, c'est pas vrai que je vais témoigner de manière secrète de même. Un tel huis clos vise manifestement à obtenir sa version des faits confidentiellement et aura pour conséquence que le public ne pourra pas entendre l'intégralité de son témoignage. Parce que si le commissaire Galland a besoin de son témoignage pour arriver à des conclusions dans son propre rapport, il ne pourra pas mentionner qu'est-ce que Karl Malenfant va avoir dit, de qui, pourquoi. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui lui a demandé de prendre telle ou telle décision. Mais si c'est à huis clos, ben on ne saura pas c'est qui cette personne-là. Et ça, ça pourrait peut-être faire mal. Il demande au commissaire Denis Galland de cesser l'obligation à comparaître transmise à son client. Donc là, c'était l'avocat de Malenfant, maître Jean-François Bertrand, qui parlait. Malenfant avait déjà rencontré les enquêteurs de la commission au début du mois de mai lors d'un entretien à micro fermé qui a duré quand même 3 heures. La commission lui a fait parvenir une nouvelle assignation à comparaître le 5 août, mais cette fois en présence de Denis Galland. Mais toujours dans le plus grand des secrets. Maître Bertrand s'insurge contre cette nouvelle convocation. On ne lui dit pas « tu vas venir rencontrer les enquêteurs ». On lui dit « tu vas venir témoigner à la commission Galland le 5 août, mais à huis clos ». C'est ça qui est unique. Je n'ai pas vu ça pour aucun autre témoin ni dans aucune autre commission d'enquête, clame-t-il en entrevue à Radio-Canada. Une commission d'enquête publique, on fait ça pour le public. Par définition, tout ce qui se fait en cachette du public, c'est pas correct. Ça viole l'esprit même d'une commission d'enquête. Et effectivement, si on commence à cacher des trucs dans une enquête publique qui vise à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le financement tout croche de cette application-là, ben, ça serait le fun que le public soit au courant. Où sont allés les 1,1 milliard de dollars des contribuables québécois pour être englouti par on sait pas trop qui, on sait pas trop quand et qui s'en est mis tant que ça dans les poches aussi. Évidemment, de la commission Galland, maître Joanne Marceau, dit porte-parole, dit que c'est faux, qui soutient que cette procédure a déjà été utilisée pour d'autres témoins signés à comparaître sous la contrainte. Elle se garde toutefois, évidemment, de dire c'était qui et il y en avait combien. Donc, il y aurait déjà des gens qui auraient été interrogés de manière secrète. Elle ajoute que tous les témoins, contraints ou non, ont d'abord été interrogés par des enquêteurs ou des procureurs de la commission, ça c'est normal, et ce, avant d'être appelés à la barre des témoins. Mais pourquoi le gars que tout le monde parle, lui, devrait être en secret? C'est spécial, mettons. Les employés de la commission ont entendu plus de 150 personnes lors de ces rencontres. Les employés de la commission ont ainsi entendu plus de 150 personnes lors de ces rencontres à huis clos. Seulement 45 d'entre elles ont comparu publiquement. Hé, c'est pas rassurant. Maître Marceau rappelle que seul le témoignage fait dans le cadre de l'audience publique sera considéré dans le rapport final de la commission. Rappelons que Denis Galland a refusé d'octroyer à Karl Malenfant le statut de participant à la commission, ce qui lui aurait permis de déposer des documents en preuve et contre-interroger les témoins. Donc, on le tient vraiment éloigné de tout ça, mais Qu'est-ce qu'il cache tant que ça, ce Karl Malenfant? Ou plutôt, qu'est-ce que... De quoi les gens ont peur de ce que Karl Malenfant pourrait faire? Comme un... Il y a comme quelque chose qui se passe, on dirait. Là. C'est des suppositions. Mais, mettons dans un film, t'as la personne témoin qu'on essaye à tout prix de faire en sorte qu'elle dise rien. T'en regardes mal, d'habitude. Ou qu'on l'a fait parler, mais qu'on va fermer les micros, fermer les caméras, puis il y aura personne qui va avoir le droit de dire qu'est-ce qu'il a dit. Hey, c'est pas rassurant. Donc, à suivre, si Karl Malenfant... pourra donner sa version des faits à tout le monde, ou si les gens l'auront traîné dans la boue, sans droit de réplique, ou qui va faire une entrevue dans 5 ans avec Patrice Roy, je sais pas, là, puis ma version des faits. Allez Gravel, ce serait bon pour ça. Sa version des faits de l'affaire, ou quelque chose dans ce genre-là, mais c'est ça. Ils essayent, eux, de faire ça dans les règles, mais les règles sont en train de se réécrire exprès pour lui. Je sais pas. Il me semble que ça devient un petit peu complexe tout ça. Et sinon, rapidement avant d'aller à la pause musicale, la circonscription de Battle... Je sais pas pourquoi j'ai de la misère avec ce nom-là, de Battle River Crowfoot. Le candidat sortant, Damien Curek, avait bel et bien remporté 82,84% des intentions de vote, des voix en 2025, soit une avance parce que la libérale était à 7 000, donc une différence d'à peu près 45 000, juste ça, un petit peu moins de 45 000. Que Pierre Poilievre va être encore capable de faire 82 à 11 pour les pourcentages, ça devrait être surprenant. On fait voilà cette courte pause et au retour, on parlera donc cinéma ici sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz 94.3. Ah, c'est une chanson, ça. Ah, il y a peut-être. C'est juste qui arrive. Erika Hagen, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ 88.3 de Chiz 94.3. Première bande-annonce tout de suite, parce que comme je le disais en ouverture d'émission, il y a deux comédies qui prennent l'affiche dans deux styles relativement différents d'humour, notamment L'agent fait la farce avec Liam Neeson.
Merci. Une fois que tu es tué par vengeance, il n'y a pas de retour en arrière, Bess. Une petite voix dans la tête qui te répète constamment. Ça fait tellement bien.
Mais qui êtes-vous?
Drebin. Lieutenant Frank Drebin. Merci.
La brigade spéciale a toujours été l'élite des élites.
Salut papa, c'est moi, Frank Junior. Je t'aime fort.
Salut papa, c'est fou comme tu me manques.
Et vous, Frank, vous êtes le meilleur des meilleurs.
Des toilettes, j'ai des cigares au bord des lèvres.
Il y a une file d'attente.
Police, ça presse. Oh. Je vais encore tâcher un costume.
Je suis là, lieutenant. Quelqu'un a tué mon frère, j'en suis persuadée.
Mais prenez une chaise.
Merci.
Je vais le retrouver. C'est mon métier. Tu es copé de 20 ans pour association de malfaiteurs.
C'est de malfaiteurs.
Tu t'es fait prendre en flagrant délire.
Il menace de dissoudre la brigade spéciale si cette enquête n'est pas résolue. Alors suivez les règles.
Ah ouais? Et qui va me passer les menottes? D'un autre flic?
C'est ça.
Elle est sérieuse.
Il se fout de moi.
Non.
Il semble que Drebin pose plus de problèmes que prévu. Tu vas le surveiller de près.
Il est vraiment dégueulasse, ce four.
Mais je peux t'assurer que je ne m'arrêterai pas avant que justice soit faite.
Qu'est-ce que tu veux, la gamine?
Tes fesses. On déconne pas avec la brigade spéciale.
nous avons équipé cette voiture de la dernière technologie anti-crime.
Voiture avance de 10 mètres.
Conduite très souple.
Hey, vous ! Hey, ne bougez pas !
Tout fout le camp dans cette ville.
Alors, c'est sûr qu'à l'audio, il y a beaucoup de gags qui manquent parce qu'il y a beaucoup de gags visuels dans ce film-là et c'est peut-être les derniers trucs qui sont un peu secrets si on n'a pas vu la bande-annonce. Je l'ai passé quand même, mais c'est ça, c'est... Dans le texte, on les entend pas beaucoup, mais au final, ben c'est ça. Les meilleurs jokes étaient dans les bandes-annonces plus que d'autres choses, ce qui est un peu dommage, mais en même temps, ça fait partie peut-être de ce genre de classique de film, de comédie que, c'est ça, on mise sur le fait que les bons gags sont dans bande-annonce et que les gens vont aller voir le film quand même, mais malgré tout, ça livre quand même. Frank Drebin Jr. est le fils du légendaire inspecteur du même nom. Son enquête sur un accident d'auto mortel l'amène à rencontrer la séduisante Beth Davenport, interprétée par Pamela Anderson, sœur de l'infortunée victime. Leur investigation les conduit à Richard Kane, le richissime et génial inventeur d'une automobile électrique révolutionnaire. Au fil de son enquête, Frank découvre que Kane fomente un sombre complot qu'il faudra qu'il désamorce. Parce que là, cette définition-là du film est en train de dévoiler le punch aussi du film. Mais bon, fait que voilà. Donc, Liam Neeson et Pamela Anderson, tous deux qui ne sont pas nécessairement habitués à jouer dans des grosses comédies comme celle-là, s'en tirent plutôt bien, j'ai envie de dire. Ils ont l'air d'avoir eu du fun pour vrai. Parmi les producteurs, on a le gars de Family Guy, Seth MacFarlane. Et disons que c'est à peu près dans le même état d'esprit. Ou justement faire des blagues nichées de références culturelles modernes. Ça, Family Guy sont bons pour juste nommer des noms de personnes pour la blague. Mais on va le retrouver aussi dans Naked Gun. Nouvelle génération ou nouvelle version, tout dépendamment des versions qu'on entendra. Tu sais, en tant que tel, si on a aimé les autres films, on va s'y retrouver. Il y a d'ailleurs un hommage au film original dans le générique de fermeture. Il y a d'ailleurs des petits trucs cachés dans le générique de fermeture, fait que ça vaut la peine de peut-être rester jusqu'à la fin. Mais à la fin, sans être non plus des scènes ajoutées, mais il y a des petits clins d'œil quand même qui sont faits aux autres franchises, aux autres films de la franchise. Et c'est ça. Est-ce que c'est un bon film, oui, c'est drôle. Il y a des bons gags qui restent à découvrir malgré tout. Mais il y a beaucoup de trucs qui s'étirent aussi. Au sens où, malgré que ça soit seulement une heure et demie, et ça, c'est à l'image peut-être de ces comédies-là originales qu'en 90 minutes, c'est réglé. Merci, bonsoir. Tu sais, ça fait... C'est rare, à cette heure, un film d'une heure et demie. Fait que c'est pour ça que ça peut passer quand même très rapidement, mais c'est ça, c'est que vu qu'il y a certains gags qu'on a déjà vus très souvent dans la bande-annonce et qui sont à peu près intégrales, c'est sûr qu'ils ont fait des petits twists pour être capables de donner un autre petit punch au visionnement complet. Mais probablement que dans la salle, on avait tous vu la bande-annonce, donc quand c'était... Les gags de la bande-annonce, ça riait pas fort. Ou en tout cas, ça souriait parce qu'on se souvenait « Ah oui, c'était dans la bande-annonce, ce bout-là. » Mais sinon, quand on tombait dans une autre version, que bon, c'est ça, ce gag-là, dans la bande-annonce, c'est amplifié x2, x3, x4, x5. Il y en a un en particulier qui, c'est ça, ben, on passe un bon 3 minutes à juste empirer la situation. Ben, tu sais, oui, c'est drôle, mais à un moment donné, t'as compris. Fait que c'est pour ça que même cette heure et demie-là, on aurait pu peut-être même resserrer ça à peut-être 1h20. Est-ce que c'est bon signe ou c'est pas bon signe? Je ne sais pas. Mais tu sais, il y a certains trucs, c'est ça, qu'on a peut-être un petit peu tiré parce qu'on voulait jouer sur la formule, on voulait jouer sur la nostalgie puis tout ça. Puis c'est ça, il y a quand même quelques gags très chien, là, au travers de ça. Il y a énormément de gags visuels, et c'est peut-être ça la petite surprise qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gags, des gags visuels, des gags de décor. Il va y avoir des trucs qui vont se passer en arrière-plan de la scène principale, ce qui est un procédé humoristique tout à fait répété maintes fois dans notamment Family Guy, où il y a une action principale, deux personnages se parlent un peu sérieusement, mais dans le background, il y a du monde qui se bat, qui se donne des coups de poing dans la face ou des choses comme ça. Bon, mais il va y en avoir beaucoup, ça, dans L'agent fait la face. Il y a des gens qui vont juste, dans le background, avoir une autre scène où, par exemple, on se promène dans le poste de police et c'est le gros chaos parce qu'il y a des gens qui se font arrêter, il y a des gens qui ne devraient pas se faire arrêter puis qui se font arrêter. Il y a des gags récurrents aussi et il y a des callbacks. Donc, si on dit quelque chose au début du film, ben, il y a des chances que cette particularité-là va se répéter un peu plus tard dans le film. Et mention spéciale à Starship, qui fera beaucoup d'argent cette année, parce que Nothing's Gonna Stop You Now est aussi dans L'agent fait la face, comme l'avait été dans Thunderbolts. Fait que, c'est ça, ils vont avoir fait du gros cash cette année pour, pas des scènes similaires, mais tu sais, rien ne nous arrêtera maintenant. Cette phrase-là, s'applique dans les deux cas. Et ça me faisait rire de revoir cette scène-là. Quoique là, ça devenait peut-être la scène la plus Family Guy-esque, parce que c'est vraiment une aparté qui n'a aucun rapport dans le film, qui ne fait pas avancer le film, et que c'est vraiment comme une espèce de grosse parenthèse de 5 minutes pour juste faire des gags un peu niaiseux avec du visuel de ce qui se passe sur de la musique populaire des années 80. Seth MacFarlane aime beaucoup les années 80 aussi. Ne serait-ce que Ted en est la preuve et c'est un petit clin d'œil peut-être à Ted si on veut cette scène-là. Fait que c'est ça. Pour les nostalgiques de ces comédies-là un peu connes avec de l'humour très premier degré, qui aiment les jeux de mots aussi, t'sais, ils ont réussi quand même à traduire malfaiteur dans la bande-annonce pour les malfaiteurs. Ça, chapeau à la traduction parce que j'ai oublié c'était quoi le gag en anglais qui était aussi bon. Mais d'avoir réussi à trouver cette twist-là pour la version française, bravo. Mais pour l'avoir vu en anglais, ça fonctionnait quand même. C'est ça. Il y a des trucs qui sont un petit peu nichés, un peu plus américains, mais qu'on comprend malgré tout. Pas nécessairement besoin d'avoir vu les autres, quoique il y a des petits clins d'œil qui sont faits quand même aux autres films, fait que qui vont peut-être être attrapés malgré tout, ne serait-ce que l'hommage, sauf à O.J. Simpson, mais c'est dans la bande-annonce, c'est pas un dévoilement de quoi que ce soit. Mais tu sais, l'hommage au père ou aux personnages originaux que tous les personnages du deuxième film, ou en tout cas tous les policiers du deuxième film, sont les enfants des acteurs originaux. Ça vaut la peine. Puis c'est ça, ben le gag d'O.J. Dure 3 secondes et malheureusement, il y a peut-être un policier qui s'est fait couper au montage. Fait que voilà pour ça. C'est ça, fait que de l'humour un peu con, des jeux de mots un peu à la François Pérusse qu'on est un peu plus habitué ici au Québec. On va retrouver notre compte. Sinon, ben, ce sera un agréable film de festival de l'agent fait la farce à nouveau d'ici 3-4 ans où on va les enchaîner pendant le temps des fêtes en alternance avec Harry Potter parce que c'est toujours ça qui se passe dans le temps des fêtes à nouveau. Fait que mais blague à part, tu sais, ça vaut la peine, ne serait-ce que pour une comédie légère, comme je le dis, un peu niaiseuse. C'est le fun de retrouver une fois de temps en temps aussi. Ne serait-ce que pour décrocher et pour d'avoir du monde qui ne se prenne pas au sérieux tant que ça non plus. Ce fameux gag de Pamela Anderson. Oui, prenez un siège. Merci. Et elle part avec la chaise. Ça fait la job. C'est dans la bande-annonce. J'ai rien dévoilé, mais malheureusement, c'est aussi un punch dans le film. Ben, en tout cas, c'était un punch, à part avec une chaise, mais tu sais. Malheureusement, tous les gags sont dans la bande-annonce. On s'arrête là-dessus, qu'on te pose Les Méchants 2, film de DreamWorks, qui... c'est ça, j'avais des attentes et j'aurais peut-être pas dû avoir des attentes sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz. Deuxième bande-annonce, comme je le disais, de DreamWorks, Les Méchants, Les Bad Guys. Deuxième film, je le disais, deuxième partie, mais non, c'est un deuxième film des Méchants. Bande-annonce tout de suite.
Quand on était méchant, on était plutôt bon. Qu'est-ce que je raconte? On était les meilleurs. À nous de jouer. Oh, ce qu'elle est belle!
C'est des méchants!
Regardez bien!
Ah,
ont bien changé. Certains n'y croient pas, mais les méchants sont devenus gentils.
Ah ouais, bah moi je vous tiens à l'œil.
Quoi ? Qu'est-ce qui t'a pris ?
J'ai paniqué, ok ? Je suis un paniqueur.
Vu notre réputation, ça n'a pas toujours été facile.
Et aujourd'hui, vous voulez travailler dans une banque ?
Et pourquoi pas ? J'ai vécu mes plus beaux souvenirs dans des banques.
Vous nous avez braqués à 3 reprises.
C'était cette banque-ci. Je m'appelle Kitty. On a étudié votre travail.
On vous admire beaucoup.
Au fond, vous êtes un peu comme les méchantes.
Et toi, t'es comme une mangue avec des dents.
Quoi ? C'est à ça que je ressemble ?
Ouh, elle a du mordant. J'adore ça. Tu peux m'insulter ?
Ils avaient besoin d'un boulot. Et moi, de renfort, de professionnel.
Peut-être que tu lis pas les journaux, mais on est devenus gentils.
C'était pas exactement une demande. Donc, on est redevenus méchants ?
On fait ce dernier boulot et c'est tout. Allez, le maître du déguisement, éblouis-nous.
Je vous promets une imitation respectueuse.
Mais qui a pris mes fleurs ? Prego, cappuccino !
Tu sais que t'es vraiment chou, mon petit serpinou. Est-ce que c'est ton otage ?
Non, c'est ma petite amie. Pourquoi elle est dans sa bouche ?
C'est ça, c'est un serpent puis un oiseau, fait que c'est drôle. Il y a des petits gags visuels aussi dans celui-là, donc Les Méchants 2, jadis as du cambriolage, 5 animaux menés par un loup suave et les gars. C'est drôle. Donc, loup, serpent, requin, tarentule et piranha tentent de convaincre la société qu'ils se sont amendés et mènent désormais une vie honnête. Mais leurs efforts sont annihilés. Lorsqu'à la suite d'un vol audacieux perpétré durant un match de lutte, tous les indices les désignent en cavale. Le loup et la bande réalisent qu'ils ont été piégés par un trio de criminels dirigés par une ambitieuse et retorse léopard des neiges, laquelle, par un odieux chantage, les oblige à participer à un calambriolage à l'échelle planétaire. Donc, on n'invente rien dans ce scénario-là, ou au sens que, ben, c'est ça, des criminels qui ont arrêté d'être des criminels, mais se font réembaucher pour redevenir criminels parce qu'ils étaient bons. Ça a déjà été vu. Ça, ce bout-là, il n'est pas super impressionnant. Il y a quelques retournements ici et là que, bon, on est content de voir après ça comment ils ont fait telle affaire. Mais... je disais tantôt, j'avais des attentes que j'aurais pas dû avoir, au sens où c'est que j'avais tellement aimé le premier film que, c'est ça, je m'attendais peut-être à vivre quelque chose de grandiose dans le deuxième, que c'est peut-être pas tout à fait produit, parce que c'est pas, tu sais, essentiellement, c'est pas une mauvaise comédie animée. C'est pas un mauvais film, mais c'est ça, je pense que c'est l'esprit de surprise qu'on pouvait avoir dans Les Méchants 1. Parce que c'est ça, ça sortait de nulle part, c'était une nouvelle franchise, on ne les avait jamais vus, que ne fait pas Shrek 2 tout le temps, n'est pas capable de tout en faire un Shrek 2 chez DreamWorks, donc le deuxième film n'est pas tout le temps un succès plus grand que le premier. T'sais, on réussit quand même à retrouver les personnages. On est content de les retrouver. Mais c'est ça, c'est que cet effet de surprise-là est un petit peu moins présent. Donc, on est moins surpris ou on est moins à trouver ça génial, peut-être. Il y a des bons trucs. C'est très drôle. On trouve le moyen de rire quand même. Mais c'est ça, c'est pas aussi cool que la première fois. J'ai juste en tête les films de Minions, mais c'est Illumination, parce qu'essentiellement, les films de Minions, c'est à peu près tout le temps la même affaire. Ben, c'est ça. Deuxième film de DreamWorks, celui-là, tu sais, on reprend à peu près tous les bons éléments du premier, puis on les remet dans le deux. Il y a des réapparitions de personnages du premier film qu'on ne s'attend pas nécessairement. Quoique, on finit sur une fin ouverte qui pourrait supposer qu'un méchant 3 pourrait être en préparation si le 2 va bien au box-office, certainement. Donc, c'est ça. C'est pas à bouder son plaisir non plus. Là, tu sais, c'est une petite comédie le fun. Mais c'est ça. Il y a peut-être un petit peu moins d'effet de surprise dans celui-là. Je pense que c'est ça le mot-clé, là, essentiellement. Ça fait comme 3 fois que je l'ai dit. Mais c'est ça. C'est que la franchise avait quand même un certain potentiel. Mais on se rend compte que rapidement, on a peut-être fait le tour, finalement. Parce que c'est ça, c'est qu'on prend les méchants classiques de ce genre de film-là, le méchant requin, le méchant piranha, le grand méchant loup, puis plus génériquement, ben, un serpent qui fait peur et une tarentule qui fait peur. Plus, il y a une renarde et les trois nouvelles... la gouverneure renarde et les trois nouveaux... les trois nouvelles criminelles. Donc, une part, la léopard des neiges et la corbeau. C'est une corbeau? Ouais, c'est un corbeau. Corbeau femelle. Mais c'est ça. Fait que la bande-annonce aussi dévoile un punch parmi tous ces personnages-là. Mais... Ça reste le fun. Ben après ça, il faut passer par-dessus aussi les petits trous de scénario. Il y a des choses que normalement, ça ne devrait pas se pouvoir, mais ça reste quand même qu'il y a une dizaine d'animaux qui sont qui agissent en humains au travers d'une ville avec d'autres êtres humains. Que ça, ben c'est normal qu'il y ait ces animaux-là dans la vie de tous les jours. Fait que... C'est déjà là, si cette règle-là est respectée, ben, ils peuvent sauter très, très loin après ça dans le film, même si théoriquement, ça se peut pas. Et c'est ça. Ben, sinon, ben, pour le scénario, ben, c'est ça. C'est tel que tel. C'est une quête. Puis, ben, c'est ça. Ça devient un petit peu absurde, la raison de la quête, mais en même temps, ça justifie les actions d'un personnage qui encourage les méchantes à faire ce qu'elles font pour éventuellement ouvrir sur un troisième film. Fait que, tu sais, toutes les pièces sont placées. Est-ce que finalement, ce film-là servait seulement à placer le prochain film qui va être meilleur? Ça serait plate de brûler un film au complet juste pour introduire le prochain volet. Mais, on trouve son compte, c'est le fun. Tu sais, un petit truc, le fun, une journée de pluie, ça peut être les méchants 2 qui peuvent très bien remplir la job. Donc, elle affiche partout, notamment ici à Sherbrooke, à la Maison du cinéma, bien sûr. Sinon, au Clap à Québec, qui devrait avoir les deux films pour quelques semaines encore. Donc, c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la prochaine. Salut.